Ben, on est content d'être au milieu de vous, hein. Ça fait plaisir de vous revoir tous. Et puis, donc, on va parler de deux choses différentes, ce matin et cet après-midi. Vous savez que le Seigneur parlait beaucoup en paraboles, et puis il a donné des paraboles, quelquefois, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Alors, je vais prendre ces paraboles, c'est dans le chapitre 13 de Matthieu. Et verset 44, je lis deux versets. C'est deux paraboles. Un verset fait une parabole. C'est formidable, hein. Il était concis, hein. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ça, c'est la première. Et il y en a une autre juste derrière qui lui ressemble, mais comme deux gouttes d'eau. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors, si on ne prête pas attention, on se dit, mais il dit la même chose deux fois. Et en réalité, je pense que non. Je pense que non, parce que, bien sûr, on sait bien que celui qui achète, c'est le Seigneur Jésus, puisqu'il a vu. Mais vous savez, dans la Bible, on parle très peu des perles. Vraiment très peu. Les Juifs n'étaient pas un peuple de la mer. Bon, il y avait, c'est vrai, une tribu qui était au bord de la mer et qui faisait un peu de pêche, etc. Mais c'était pas des gens qui aimaient voyager en bateau, etc. C'était pas des gens qui, à part ceux qui pêchaient dans le lac de Génézaré, mais c'est pas là qu'ils allaient trouver des perles, hein. Il y avait des Saint-Pierre là-dedans. Ça, par contre, il y a des Saint-Pierre et les Saint-Pierre, ça a beaucoup d'arêtes, hein. Alors, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que à chaque tribu, Dieu a fait correspondre une pierre précieuse sur le pectoral. Vous vous rappelez? Et ça fait un trésor. Parce que 12 pierres précieuses comme ça, ça fait un trésor. Et effectivement, le trésor dont il s'agit, c'est Israël, et en soi, cette parabole du trésor, ça fait l'objet d'une étude complète. Et à côté de ça, il parle d'une perle. Et quand j'ai essayé d'aller voir les quelques versets de la Bible qui parlent de perles, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Dans Proverbe 3:15, qu'est-ce qu'on lit ? Elle est plus précieuse que les perles, et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est la sagesse. Hein? Dans Proverbe 8:11, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc vous voyez, on compare. Finalement, la perle, elle a moins de valeur que la sagesse. Bon. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Proverbe 31. Elle a bien plus de valeur que les perles. Finalement, les perles, elles n'ont pas trop de valeur. Et en Israël, il n'y avait pas de perles sur les couronnes des rois. Non. Il n'y avait pas de perles sur le pectoral. Donc c'est un petit peu étonnant que Jésus parle d'une perle de grand prix. Ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et les Juifs, à l'époque, ils devaient se dire, pourquoi une perle? Alors, il y a aussi un passage du livre de Job qui en parle, dans la sagesse aussi, pareil. Mais par contre, les perles avaient une grande valeur chez les voisins d'Israël. Par exemple, il y a des recherches archéologiques qui ont montré qu'il y avait des perles sur les couronnes des pharaons. Vous voyez? Et puis qu'à Ninive, les perles étaient en usage, en très grand usage, et on lui avait donné... plus on allait dans les pays à l'est d'Israël, plus les perles avaient de l'importance et c'était symbolique de pureté. Alors, c'est difficile à comprendre hein, pour les juifs qui étaient là, qui écoutaient Jésus, une perle. Et en fait, Jésus introduisait là quelque chose qui était un mystère caché de tout temps, qui était l'Église. Parce que Jésus, il parlait non pas des juifs là, mais des gentils. Et Jésus, il voulait agrandir son royaume, non pas seulement aux juifs, mais au monde entier. Et il le parle sous la forme de la perle. Alors, Pierre va finir par comprendre ça plus tard. Et puis, il est écrit dans la première épître de Pierre, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, nous concernant nous, les gentils. » un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc Pierre, il a fini par comprendre qu'effectivement, Jésus avait trouvé une perle dans le monde. Et il a aussi son trésor. Mais ça, c'est autre chose, on n'en parle pas. Hein? Alors, il y a une différence quand même fondamentale entre une pierre précieuse et une perle. Pourquoi c'est une différence fondamentale? Ben parce que la pierre précieuse, c'est un minéral qui va se former à la chaleur et à la pression. Ça se forme à 1000 mètres de profondeur dans la terre, avec une pression phénoménale, une chaleur terrible, et puis ça va remonter tout doucement. Avec le sol bouge, ça remonte, ça remonte, ça remonte, et puis apparaît des diamants, apparaît des topazes, apparaît toutes sortes de pierres précieuses. Ils ont vécu l'enfer. Tandis que la perle est issue d'un organisme vivant. C'est pas du tout la même chose. C'est au fond de la mer. Et la mer, ça représente les nations. Dans la Bible, la mer, c'est les nations. Donc c'est au fond de la mer, ça se forme, caché. J'aimais bien tout à l'heure que tu dises qu'on était caché dans les mains de Dieu. Ben, vous imaginez l'huître. On est caché et ça se forme. Alors, qu'est-ce que c'est que la perle? Je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé, je ne sais plus où. C'est un petit grain de sable, ou un corps étranger, qui pénètre dans le côté de l'huître et le blesse, comme blesserait un grain de poussière dans l'œil humain. Pour calmer la souffrance que lui cause ce corps étranger, l'huître recouvre d'impureté une couche de nacre, matière gluante qui finit par durcir. À ce moment-là, l'inflammation renaît, parce que comme c'est dur, ça regratte. Et à ce moment-là, on produit de nouveau la douleur, à laquelle l'huître répond par une nouvelle couche de nacre qui est molle au début, qui durcit et qui refait mal. Et finalement, ça fait tout le temps mal. Ainsi de suite, couche après couche, l'huître va jusqu'à donner sa vie pour la formation de la perle. En sorte que ce corps étranger se voit transformé à l'image de l'organisme qu'il a formé, sublime image de l'Église de Jésus-Christ. Alors le Seigneur avait promis d'envoyer... l'Esprit Saint sur ses disciples. Et c'est ainsi que l'Église est née, protégée et conduite par le Saint-Esprit. Alors, ce sont des textes qu'on connaît bien. Hein. le jour de la Pentecôte, et on a eu la chance d'être en Israël à Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte. Et à Shavuot, qu'est-ce qu'on a vu à l'autel ? Des Juifs qui venaient du monde entier, et chaque Juif allumait une lampe et faisait une prière, donc une bougie. Il y avait des centaines de bougies allumées. Et ces Juifs-là, ils font ça depuis 2000 ans. Et même avant, ils ont 3000 ans, 4000 ans d'avance sur nous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le jour de la Pentecôte, il y a eu cette lampe aussi qui est venue sur nous. Il vint du ciel comme un bruit de vent impétueux, remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et furent remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là la naissance de l'Église. C'est là que démarre ce processus qui va créer la perle et des perles. Alors la perle, c'est un objet de luxe. Et l'objectif de la perle, c'est quoi ? C'est de faire un ornement, de faire un bijou. En Orient, les colliers de perles, ça symbolise l'innocence et la pureté. Vous voyez ? C'est pas du tout comme les pierres précieuses. En Orient, seuls les rois avaient le droit de se parer de ce joyau-là. Seuls les rois. Et il y a encore quelques années, en Iran, quand il y avait encore le Shah d'Iran, toute perle de grand prix devenait automatiquement propriété du Shah. Donc c'est dans ce pays un ornement très précieux. C'est la révélation de l'Église. Et Jésus parlait en parabole, on ne comprenait pas à l'époque qu'il était en train de révéler quelque chose d'extraordinaire. Alors je vais vous parler de la perle. Parce que ça cache pour nous une instruction fort importante. C'est vrai, quand on voit dans l'Église des prédicateurs qui viennent, des évangélistes qui viennent et qui disent « Donnez-vous au Seigneur Jésus, levez la main », etc. Et puis c'est bon. Et on dit « Voilà, vous êtes sauvés, c'est bien ». Je ne vais pas vous dire ça, moi, ce matin. Je ne vais pas vous dire ça à travers la perle. La perle, c'est le résultat d'une anomalie. C'est vrai. Nous sommes, nous, le résultat d'un truc qui a foiré. Quelque part. C'est vrai, c'est un accident. On peut imaginer un poisson au fond de la mer, là. Il avance. Il balance sa queue, et puis ça soulève du sable, alors que l'huître est en train de bâiller. Alors c'est un nuage de sable qui rentre dans l'huître. Et l'huître, elle a cette capacité de faire ça, et de chasser le sable. Donc elle nettoie. Mais voilà, il en reste un grain. Et puis ce grain, ça l'a fait pleurer. C'est le grain de sable dans l'œil. Vous avez déjà eu un grain de sable dans l'œil ? C'est pénible, hein ? Et ça peut être pénible longtemps, hein ? Alors, on voit que c'est les circonstances de la vie qui provoquent ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que dans notre vie, à un moment donné, il y a eu une tempête. Il y a eu un éboulement dans notre vie. Il y a eu des courants qui sont passés près de nous, toutes sortes de phénomènes que nous, humains, on qualifie de problèmes, on qualifie de catastrophes, on qualifie d'épreuves qui sont finalement communes à tout le monde. Après tout, on est tous dans le même truc. Et l'huître peut souffrir de l'intrusion aussi de petits vers. Il n'y a pas seulement des grains de sable. il y a aussi des petits vers qui vont rentrer dans l'huître, qu'on appelle des gestodes, et puis qui vont provoquer aussi le fait qu'elle va faire de la nacre autour du petit ver. Et ça peut finir par faire une perle. Oui. Donc c'est pas forcément un grain de sable au milieu. Ah oui. Alors, je vais vous lire des textes que j'ai trouvés, des scientifiques, des gens comme ça. C'est un savant qui s'appelle Kellar, en 1859, qui constate que les huîtres de Ceylan étaient parasitées par des petits vers. Il proposa même de volontairement infester les huîtres. Et certains bancs, avec ces vers, ont fait des perles. Mais il a constaté aussi que d'autres ne faisaient pas de perles, mais faisaient d'autres choses. En mer Rouge, toutes les pluies étaient abondantes. Lorsque les pluies étaient abondantes, les pêcheurs constataient que les raies venaient en grand nombre chercher leur nourriture dans les eaux limoneuses. L'année suivante, ils trouvaient dans ces lieux des perles en grande quantité. L'explication fut découverte qu'au début du siècle par un savant qui remarqua que les raies renfermaient dans leurs excréments un parasite, qui, libéré dans l'eau, allait dans l'huître. Afin de se débarrasser de ces larves, les tissus étaient sécrétés en amas et ça faisait un kyste. Ça faisait un kyste autour de la larve, mais qui ne devenait pas pour autant une perle. Souvent, les plongeurs ont découvert dans les huîtres des amas de couleur brun-marron qui renferment aucune perle. Pour qu'une perle se forme, il faut que la larve soit entourée par des cellules spéciales qu'on appelle épithéliales et qui sont les seules à sécréter la matière perlière. On ne sait pas avec précision pourquoi certaines larves deviennent des perles et d'autres non. On ne le sait pas. On ne sait pas, c'est comme ça. Alors, toujours est-il que si on coupe ces trucs marrons là, eh ben on trouve un ver au milieu. Et si on coupe certaines perles, on trouve un ver au milieu. Alors, vous voyez, c'est le problème qui est un jour venu nous véroler la vie. Pour certains, ça a conduit à faire une perle, pour d'autres, ça a conduit à faire un kyste. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chez certaines personnes, les problèmes conduisent à Dieu, et pour d'autres, les problèmes éloignent de Dieu. Et c'est les mêmes problèmes. Et là, vous retrouvez quelque chose comme ça, c'est le même phénomène. C'est inexplicable, en tout cas scientifiquement, les chercheurs n'ont pas trouvé comment ça marche. Alors, quelle leçon on peut tirer de tout ça? Eh bien, la leçon, c'est que on a la perle qu'à la fin du processus. Ça n'est qu'à la fin qu'on voit si c'est une perle ou si c'est un kyste. Parce que même si le ver donne un kyste, à un moment donné, ça peut continuer et refaire une perle au-dessus. Vous voyez? Donc quand on coupe la perle, on verra qu'il y a un kyste au milieu, un truc marron. Mais ça a fini par faire une perle. Donc vous voyez le processus. Ça fait penser alors aux paroles de Jésus concernant le salut. Moi, ça m'a fait penser à ça. On a le salut en espérance. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais dans Romains 8, qu'est-ce qu'on lit? Nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière souffre, et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc vous voyez, quand on dit « je suis sauvé, je suis sauvé », ok, tu espérais, tu es sauvé en espérance, mais le salut, tu l'auras à la fin de ta vie. C'est là que tu l'as. Et c'est là, à la fin de ta vie, qu'on voit si tu es une perle ou un kyste. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour être sauvé, il faut avoir reçu l'amour de la vérité. Ceux qui prennent plaisir à l'iniquité seront condamnés, sauf s'ils se repentent. Or, l'iniquité peut prendre bien des aspects séducteurs et trompeurs dans ce monde en décomposition dans lequel on est. Qu'est-ce qu'il est dit concernant les gens qui aiment l'iniquité ? Il est dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils ont beau avoir eu un ver dans leur vie qui a commencé à former de la nacre, mais s'ils ont pris plaisir à l'injustice, et vous savez, de l'injustice, il y a beaucoup de formes. Seule la parole de Dieu peut nous donner, peut servir de référence pour savoir entre ce qui est inique et ce qui ne l'est pas. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bon. Et comme Jésus était la parole faite chair, eh ben, nous pouvons connaître la vérité par la parole, puisqu'il a dit « Je suis la vérité ». Et comme c'est la parole faite chair, eh ben, dans la parole, vous avez la vérité. Ça, c'est mathématique. Comme la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Certains diront alors que la parole c'est compliqué, qu'ils ne sont pas capables de comprendre. C'est vrai, moi je connais plein de gens qui disent « Oh, j'aime pas lire ». Il y en a plein, hein ? J'aime pas lire. Alors ils écoutent. Ils écoutent quelquefois n'importe quoi d'ailleurs. Certains passages méritent une grande attention. Et parce qu'il y a beaucoup de passages de la Bible qui sont vraiment très simples. Très simples. Je vais vous en lire un que vous connaissez bien par cœur. Dans Matthieu 22, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Mais là, on pourrait faire une étude, vous savez, pour savoir ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est aimer ? Et moi, je vais vous dire, Jésus a parlé à, comment il s'appelle ? Non, c'est pas dans la Bible, c'est à John Bever. Jésus a parlé à John Bever et il lui a dit, tu sais, aimer, c'est pas être gentil. Aimer, c'est faire grandir. Hein. Aimer, c'est éduquer. Aimer, c'est dire la vérité. Aimer, c'est quelquefois reprendre. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur cette question. Alors, le Consolateur, le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, il nous conduit dans toute la vérité. Et après, on choisit. Alors, nous avons fait ce qu'il faut. Si nous cherchons la vérité sincèrement, on la trouve. Certaines personnes, vous savez, sont capables de faire des prodiges pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais si nous voulons la vérité, on l'a. On l'obtiendra. Vous serez haïs de tous aussi, mais vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tiens, c'est bizarre, on y retourne, c'est encore une fois qu'à la fin. Et moi je dis toujours, c'est pas le commencement qui compte dans la vie d'un chrétien. Ok, t'as commencé, t'as donné ta vie au Seigneur, t'as demandé pardon pour tes péchés. Ça, c'est un bon début. Mais maintenant, c'est à la fin que tu verras le résultat. Pas avant. Est-ce que tu vas tenir toute ta vie? Est-ce que tu vas suivre le Seigneur toute ta vie? Est-ce que toutes tes fautes seront effacées au fur et à mesure de ta vie? Pour être une perle à la fin. Vous savez, on lit souvent ces textes, hein, mais vous les connaissez par cœur, mais c'est bon de temps en temps, surtout dans une petite une journée comme ça spéciale, des textes que vous connaissez dans Matthieu 7. Hein, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, pas une minute. » Alors c'était quoi leur conversion? C'était du pipeau. C'était du mensonge. Et qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher à l'église? La bénédiction, pas Jésus. Si vous aimez la bénédiction plus que Jésus, vous êtes des idolâtres. Vous venez chercher la guérison. Comment on a fait pour appâter les gens? Comment ont fait les évangélistes? Venez, vous allez être guéris. Venez, vous serez délivrés de la cigarette, vous serez délivrés de ceci, vous serez cela. Et on les appâte avec la bénédiction. Au lieu de leur dire, mais vous êtes des pécheurs, si vous continuez comme ça, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer qui vous attend. Repentez-vous. Et dans la repentance, le Seigneur est bon, il peut guérir. Mais vous voyez, on a pris les choses à l'envers. Résultat, on a des tas de gens qu'on a baptisés qui ne sont pas convertis. Ce sont des sympathisants. Et ça va donner des kystes. Parce qu'au fond, c'est pas le Seigneur qu'ils aiment, c'est la bénédiction. Et il y en a comme ça des quantités et des quantités. Alors qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tiens, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oh. Alors, on voit que dans la formation de la perle, on ne consiste pas à pratiquer quelques dons, mais à apprendre à aimer. Je me suis battu depuis 35 ans, parce que chaque fois on disait, « Ah, c'est bien, t'es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. » Vous savez ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? C'est pas le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit sur toi. Tu te dégoûtes toi-même parce que tes péchés sont dégoûtants. Là, oui, il y a le Saint-Esprit. Et ta vie, elle change. Et tout d'un coup, tu aimes les autres. Voilà, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Alors après que le Seigneur te donne des dons, que le Saint-Esprit te donne des dons, parler en langue. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose, hein. Ça nous a été rapporté par un pasteur, c'est pas une carabistouille que je vais vous raconter. Il y avait dans une église un parler en langue. Tout d'un coup, il y a eu un parler en langue. Quelqu'un, une dame. Personne ne comprenait parce que c'était le parler en langue. Puis tout d'un coup, il y a une dame qui s'est levée, qui a dit, moi j'ai compris. C'est du vieux russe. Et c'était tout des insultes à Jésus. Moi, j'avais le disque de la damnation de Faust. Vous savez, cet opéra. Je l'ai écouté quand j'étais plus jeune. Dedans, il y a des chants en langue des démons. Mais bien sûr. Alors, il faut faire attention. Vous voyez? Parler en langue. Ah, oh, c'est bien, t'es baptisé. On va t'imposer les mains, tu vas parler en langue. Ah bon? est-ce que ta vie, elle est changée? Ta vie, elle n'est pas changée, c'est du guignol. C'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, ta vie, elle change. Si le Saint-Esprit est en toi, ta vie, elle change. Si elle ne change pas, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu fais du cinéma. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que on s'imagine, quand on a reçu des dons, on s'imagine qu'on est sauvé. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci, cela? Je ne vous ai jamais connu. C'est même pas je ne vous connais plus. C'est je ne vous ai jamais connu. Alors, on voit que la formation, ce n'est pas les dons. Et qu'est-ce qui nous est dit dans la parole? Il faut être clair. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Rien, vous vous rendez compte? Ben rien, qu'est-ce qu'on fait avec rien? Rien. Rien. Et quand je... Écoutez, mais ça va loin. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. Je ne vous ai jamais connu. T'as pourtant été t'es mort pour les autres. Je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur, il est pragmatique, vous savez. Et il nous a enseigné à regarder non pas les dons, mais les fruits. Je ne vais pas citer de nom, hein, mais il y a quelqu'un de très important dans l'Église. Je cite pas de nom ni son titre. Comme ça. Il a écrit un bouquin. Ce bouquin, on l'a lu. J'ai dit, mais quelqu'un qui est tout en haut, hein. Je dis, mais ça va pas, il y a quelque chose qui colle pas. Il explique dans son bouquin qu'il n'écoute plus les conseils des gens comme vous et moi, mais qu'il va écouter les conseils d'un apôtre qui se trouve en Amérique du Sud. J'ai dit, mais attends, ce gars-là, il est bouffé par l'orgueil, là. Eh ben, on a appris hier qu'il s'est cassé la figure. Voilà. Mais c'est simple. Eddie Wallet, vous connaissez Eddie Wallet. Un jour, il a rencontré un pasteur, je crois que c'était un pasteur africain, je ne sais plus, peu importe, qui lui a raconté l'histoire suivante. Il a eu une vision. Et qu'est-ce qu'il voyait dans sa vision? Il voyait l'enfer et il voyait un pasteur qui était en enfer. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que tu es là? Ben, il dit, j'ai volé dans la caisse. Oh! Il était pourtant sauvé au départ. Tu peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec un seul péché collé à toi. Si t'es pas repentant de tous tes péchés, tu n'y rentreras pas. Faut pas se faire d'illusions. Faut arrêter avec les histoires, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. T'es sauvé si tu demandes pardon. Et si tu suis ce que Dieu dit. Et à la fin de ta vie, tu rentreras. Alors, le Seigneur est pragmatique et il nous a jamais demandé de regarder aux dons. Qu'est-ce qu'on constate dans les églises? Un prophète arrive, tous les chrétiens, ils se radinent. T'aurais pas une petite prophétie pour moi? Voilà, les chrétiens, ils viennent, ils courent après les dons. Ils courent après les bénédictions. Ils courent après... On ne peut pas prier pour mon dos. Attends, pourquoi ton dos est coincé? Moi, je me rappelle toujours. C'était Monsieur Ponce. Je vous l'ai peut-être déjà raconté, ça. Monsieur Ponce, c'était quelqu'un qui est extraordinaire de la porte ouverte, mais il y a longtemps, il y a 35 ans. La porte ouverte. Alors, Monsieur Ponce, c'était quelqu'un qui suivait vraiment le Saint-Esprit. Hein. Il partait en Amérique du Sud parce que le Seigneur lui disait « Tu t'en vas là-bas ». Et puis en sortant de l'aéroport, il disait bah, « et maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Puis il y a une voiture qui s'arrête, il monte dedans. Puis voilà. Et alors, un jour, il vient à la Madeleine et il y avait une dame « Oh, est-ce que vous pouvez pas prier pour moi ? Je suis malade, j'ai mal dans l'eau. » « Madame, vous n'aimez pas votre mari ? Vous allez demander pardon, on va prier pour vous, vous serez guéri. » Brave. Elle avait mal dans le dos parce qu'elle n'aimait pas son mari. Alors, mais quelquefois, mais on est malade dans l'église, quelquefois. On prie pour des gens qui ont des problèmes, on ne cherche pas à savoir pourquoi ils ont des problèmes. Qu'est-ce qui est l'origine du problème ? C'est ça qu'il faut guérir, pas le problème. Alors on va prier, « Ah oui, j'ai mal à ceci, j'ai mal à cela. » Eh ben oui, t'as mal. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi t'as mal. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie ? Ça peut être un problème que... Ça peut être une persécution, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça peut être aussi un autre problème. Et il faut comprendre quelle est la racine. Et ça, c'est important. Alors, le Seigneur nous a pas demandé de regarder aux dons, mais aux fruits. Hein? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les fruits, c'est quoi ? L'amour, la joie, la paix, etc., 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 etc. Les fruits, je vais vous dire, c'est pas les cernes sous les yeux. Parce qu'on a connu ça, hein. L'esclavage chrétien, on a connu ça. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas aux dons. Et je vous rappelle que Judas a chassé les démons, et il est en enfer, comme maintenant. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? Ou des figues sur des chardons. Dans la parabole des 10 vierges, il y en a 5 qui ne sont pas rentrées dans le royaume. Je vais vous raconter encore une histoire. C'est dans des bouquins qu'on lit, je ne sais plus où. Mais c'est Kenneth Hagins, donc un pasteur très connu aux États-Unis. Il y avait un pasteur aux États-Unis qui était marié, et puis ça faisait plusieurs années, il avait son ministère, hein. Et puis sa femme, elle en a eu assez. Elle en a eu assez de cette vie, ça lui convenait pas, elle voulait s'épanouir, elle n'était pas suffisamment mise en valeur, si disons. Donc un jour, elle a planté son mari, et elle est partie dans le monde, et elle a refait sa vie, et puis elle a fait ce qu'elle voulait. Et tout le monde priait pour qu'elle revienne. Comme on fait, c'est le premier réflexe des chrétiens, ça. Hein? Ils priaient, et puis un jour, donc Kenneth Hagins priait pour qu'elle revienne, qu'elle se repente, etc. Et là, Jésus lui a parlé. Il lui a dit, tu vas arrêter de prier maintenant, elle est perdue. Elle avait choisi en connaissance de cause. Et la parole est nette sur cette question. On n'en parle jamais. Elle est très nette sur cette question. Et cette femme, c'est tout. Qu'elle continue sa vie. Mais à la fin, c'est l'enfer. Vous savez que la repentance, c'est un cadeau. La repentance, c'est un cadeau. Merci Seigneur parce que j'arrive encore à me repentir. Parce que si tu sais plus te repentir, ça finira mal. Il y a des preuves, hein, dans la Bible. Le serviteur inutile, qu'est-ce qui est dit dans la parabole des talents ? Vous vous rappelez ? Le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'était pourtant un serviteur. Mais il servait à rien. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa vie? Quels étaient les fruits de sa vie? Rien. Dans la parabole du serviteur impitoyable, le méchant serviteur ne pardonne pas à son compagnon, alors que lui-même a eu sa dette effacée. Qu'est-ce qu'il est dit? Son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est qui le bourreau? Moi, j'en connais qu'un. Satan. Chatan, comme ils disent les messianiques. Livré à Chatan. Ben merci. J'y tiens pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas pardonné. Alors ça fait réfléchir. Attends, y a pas des racines là que j'ai oublié de couper, des gens qui m'ont fait des trucs et... Est-ce que j'ai analysé ma vie? Moi j'ai cru mourir une fois. Je vous ai déjà raconté tout ça, je vais pas en faire. Mais j'ai cru que j'avais un cancer du foie et j'ai cru mourir pendant 2 nuits. Parce que cancer du foie, en général, bon, ça dure pas longtemps. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis pas prêt, hein. Je suis pas prêt, hein. Et j'avais peur. Vous savez, la mort, ça fait peur, hein, quand on s'approche de la mort. Et là, est-ce que ta vie, elle est claire? Parce que c'est bientôt la porte qui va s'ouvrir. Et tu vas partir où? Est-ce que tu as nettoyé ta vie complètement? Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Ça, c'est autre chose, ça fait mal. Mais c'est pour un bon... Et quand il y a des problèmes, quand les gens ont des problèmes, eh bien, il faut essayer de voir. Est-ce que c'est Dieu qui t'émonde? Est-ce que c'est autre chose? Moi, je connais une sœur. Elle a un truc... une Minerve, là, ouais, c'est ça. Et elle sait très bien pourquoi. Elle a désobéi au Seigneur. Elle dit, je sais. Alors, elle a sa Minerve. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, on ramasse, on le jette au feu et il brûle. Bon, je vais essayer. Mais tout dépend ce qu'on aime. Est-ce qu'on aime le Seigneur ou est-ce qu'on aime ses bénédictions? Bien sûr, il faut réfléchir à ça. Hein. Seigneur, finalement, pourquoi je viens à l'église? C'est pour toi? Pour moi? Pourquoi, finalement? Hein? Bon. Alors, pour rentrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Parce qu'on peut très bien voir le royaume. Quand Jésus était au milieu des Juifs, il disait, le royaume s'est approché de vous. Forcément, il y avait le roi au milieu d'eux. Ils ont vu le royaume. Est-ce qu'ils y sont rentrés? Non, pas forcément. Vous voyez? Alors, vous avez vu comment Jésus a repris les pharisiens. 8 fois, il leur dit, malheur à vous. Malheur à vous. Moi, j'ai pas envie que le Seigneur me dise ça. Alors, quelle est la composition d'une perle? On va revenir aux perles maintenant. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai jusqu'à l'ennemi. Il y a 92% à peu près d'aragonite. Alors, c'est quoi l'aragonite? C'est une espèce de calcaire qu'on trouve dans la région d'Aragon. D'accord? Bon, c'est simple à comprendre. Après, il y a la conchioline qui fait le lien de tout ça. Bon, et puis, l'aragonite, c'est quoi? C'est tous des petits cristaux qui se mettent les uns à côté des autres. Et la consuline, c'est ce qui va faire le lien. Alors, quand il y a une perle qui se forme, eh ben, la perle, elle va prendre une certaine couleur qui dépend de l'environnement dans lequel elle a été faite. On peut avoir des perles noires, on peut avoir des perles blanches, et puis ils arrivent même maintenant à faire d'autres couleurs. D'accord ? Alors, donc, chaque perle a sa couleur. Maintenant, imaginez que vous êtes une perle. Il y a des perles de toutes les couleurs. Mais en plus de ça, comme c'est de la nacre, quand la lumière arrive sur la nacre, eh ben, ça décompose la lumière du soleil. Et ça, c'est le rayonnement de chacun ou de chacune. D'accord ? Alors, les spécialistes ont découvert une chose étonnante. C'est que la nacre des perles est 3000 fois plus résistante à la fracture que l'aragonite qu'on trouve par terre. Vous voyez, le calcaire, la craie, là. Eh ben, la perle qui est de la même matière, elle est 3000 fois plus solide. Ce qui fait que on peut pas l'écraser. Même si on roule dessus avec un camion, la perle, elle s'écrasera pas. Et ça, c'est intéressant, hein, parce que si vous êtes une perle chrétienne, une vraie, il peut passer sur vous n'importe quoi, vous résisterez. C'est comme ça que j'ai encore lu ce matin, en Iran, il y a, paraît-il, la liberté de culte en Iran. Voilà, et il y a un pasteur... Depuis 10 ans, il est pasteur. Et il y a eu un décret qui a dit que tous les enfants sont obligatoirement enseignés dans le Coran. Donc il est allé à l'école. Il est allé à l'école avec la loi iranienne qui dit il y a la liberté de culte. Le soir même, il était arrêté et il va être pendu. Le rouleau est passé sur lui. Vous voyez ? Et il résiste. Il n'a pas renié sa foi. Celui qui me reniera, je le renierai. Il n'a pas renié sa foi, il va mourir. Ah, s'il était possible d'exploiter cette dureté, eh bien, on pourrait faire des voitures qui absorbent les chocs sans se démolir. Alors, il y a deux grandes qualités. C'est la solidité, la résistance exceptionnelle, et puis la couleur. Et le Seigneur, il va déposer des couches de nacre. Écoutez les couches. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle est qu'il te connaisse. Le but, c'est de connaître Jésus-Christ et de connaître Dieu. Si on connaît Dieu, il ne nous laisse pas oisifs. Parce qu'alors, il nous montre les œuvres que lui a préparées d'avance et il nous fait rentrer dans ses œuvres et les choses vont tout seules. Parce que c'est lui qui les a préparées. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un d'épuisé. Mon fardeau est léger, il a dit. Mon joug est doux. Et on fait des œuvres qu'il a. C'est lui qui fait. Et il nous fait cadeau de rentrer dans ses œuvres. Comprenez la différence. Nous, c'est pas. Moi, je veux pas du tout me vanter. Je suis pas mieux que vous, pas mieux que personne. Mais le Seigneur m'a dit, tu iras où j'ouvrirai la porte. Je demande rien à personne. Eh ben, on a tout le temps quelque chose à faire. tout le temps. Et maintenant, ça fait un an que je suis en retraite, on n'a pas arrêté. Hein? Il ne nous laisse pas oisifs. Voilà. Alors on va à droite, à gauche, et pisse, pisse et tout. Et je me dis, chaque fois que je vais quelque part, c'est peut-être la dernière fois que tu y vas. Parce que j'ai tellement pris de coups dans ma vie, j'ai tellement été viré des églises, 3 fois on a été viré, que je me dis, c'est peut-être la dernière fois. J'ai rien à... Je gagne rien à faire ça. Rien. Rien du tout. Et quelquefois, on dit des choses qui sont pas plaisantes. Mais on les dit quand même. Je sais que je vais à contre-courant quand je dis, faites attention, le salut, ça n'est qu'à la fin. Travaillez à votre salut, etc. Alors, Dieu, c'est l'époux d'Israël et Christ, époux de l'Église. Et j'aimerais... Est-ce que je vous ai déjà parlé du mariage juif ? Non ? Alors, je vais dans le quart d'heure qui reste vous parler de ça. Parce que Jésus, il va chercher sa perle. C'est sa perle. Moi, j'en ai une. C'est ma perle. Alors, le mariage juif, comment ça se passe ? Vous allez voir, Jésus était quand même, c'était fort ce qu'il disait. Voilà, le jour venu des fiançailles, le fiancé va quitter la maison de son père, il se rend à la maison de la future épouse, et là, avec le beau-père, il négocie le prix de la dot. Il négocie le prix de la dot. Et lorsque le futur époux va payer la dot, on établit un engagement de mariage. Et les deux fiancés sont considérés comme mariés. Vous n'avez pas remarqué qu'on dit toujours qu'on est l'épouse de Christ, alors qu'on n'est pas encore marié. C'est pas consommé le mariage. Les noces n'ont pas eu lieu. D'accord ? Ils auront lieu qu'à la fin. Et pourtant, on dit l'épouse. Parce qu'en Israël, quand t'es fiancé, eh ben, on dit que t'es la femme d'eux. Même si c'est pas consommé. Mais c'est définitif. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils boivent ensemble une coupe de vin sur laquelle on prononce la bénédiction des fiançailles. Ensuite, l'époux va rentrer à la maison de son père et il va être séparé physiquement de sa fiançaille, de sa fiancée, pendant environ 1 an. Ils ne vont pas se voir. Ça ne vous dit rien, ça ? Jésus est venu, il a payé le prix, et il est reparti. Il est reparti. Et là, on ne le voit pas. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Certains musulmans le voient. Mais moi, je ne l'ai pas vu, Jésus. Il est parti. Il est retourné chez son père. Et puis, à la fin de la période des fiançailles, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque tout est prêt, l'époux va venir la nuit. Il va descendre de la maison de son père la nuit pour prendre, enlever son épouse, la prendre, et vivre avec elle dans la maison qu'il aura préparée. D'accord ? Et cet enlèvement se fait sous la forme d'un cortège au flambeau. Donc il descend, et puis l'épouse qui entend le cri dans la nuit, parce qu'on crie dans la nuit, elle sort de chez elle avec de la lumière, et elle va le rejoindre. Et ils partent ensemble à la maison du père. Alors lorsque l'épouse, oui parce que il fait une maison près de la maison du père. Oui. Alors, dans la parabole des 10 vierges que vous connaissez tous, je ne vais pas vous la relire, vous la connaissez bien. Premièrement, Jésus vient payer le prix. Donc il descend, il vient payer le prix. Vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, etc. Donc Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous. Il paye le prix. Ensuite, fiançailles. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. D'accord ? Ensuite, les époux boivent ensemble la coupe. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et avec qui il a fait ça ? Avec les apôtres, hein ? Donc avec la fiancée. Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Ensuite, l'époux retourne chez lui. Jésus répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Hop, l'époux est enlevé. Et donc ça se passe à Béthanie. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment le mariage juif. Alors ensuite, il y a l'épouse qui se prépare, c'est nous. On doit se préparer au mariage. Cet après-midi, je vais vous parler d'Israël. On est vraiment tout proche du retour du Mashiach. Si on ne se prépare pas au mariage maintenant, on n'y sera pas. Ça, c'est clair et net. Hein ? Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. On peut pas faire comme s'il y avait rien là dans quelques années, hein. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes, c'est-à-dire les œuvres préparées d'avance. Si tu fais des œuvres que tu crois justes, mais qui sont des œuvres à toi, ça ne sert à rien. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voyez ? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La sainteté, la pureté, la propreté, la vérité. Et les époux aspirent à se revoir. Vous savez, nous, on a rencontré beaucoup de chrétiens. On leur dit, vous savez que le Seigneur revient bientôt. Et là, ils nous disent, j'espère pas trop vite parce que je voudrais me marier. J'espère pas trop vite parce que on est en train de bâtir la maison. J'espère pas trop vite parce que j'ai encore plein de bonnes œuvres à faire. Vous vous rappelez de la parabole du maître qui avait fait un repas et qui dit, appelez tous ceux qui doivent venir. Et il y en a qui disent, je peux pas venir parce que j'ai acheté une paire de bœufs, il faut que je les essaye. Je peux pas venir parce que je dois me marier. Je peux pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils aiment pas le mari, Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font dans l'église? Ils s'occupent d'abord de leurs affaires. Ils viennent chercher les bénédictions parce que ça, c'est intéressant, ça résout les problèmes. Mais au fond, ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Faut être clair. Ils n'aiment pas Jésus, puisqu'ils n'ont pas envie de partir avec lui. Jésus va pas nous prévenir, hein. Clac! Je sais pas si vous avez déjà vu cette petite vidéo qui s'est promenée sur Internet, où on voit un pasteur qui est là avec sa Bible, qui prêche. Voilà, puis il y a toute son église qui est devant. Puis tout d'un coup, on entend « clac !» Sa Bible tombe par terre. Presque plus personne. Puis il en reste quelques-uns dans l'église, c'est l'enlèvement. Et ceux qui restent avec leur Bible. C'est fini. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'aimaient pas le Seigneur. Ils aimaient ce que le Seigneur donne, c'est différent. C'est pareil dans un couple. Qu'est-ce que t'aimes ? Ta femme ou ce qu'elle te donne ? Ce qu'elle te fait ? Au fond, il faut réfléchir à ces questions-là. Alors, c'est l'épouse dit, l'épouse et l'esprit disent, viens, Seigneur, viens. Tu vois pas, Seigneur, dans ce monde les souffrances, viens, viens, je t'aime, Seigneur. L'épouse dit, viens. Elle dit pas, pourvu que ça dure encore longtemps. Finalement, j'ai pas envie de me marier, je suis bien comme ça. Eh ben, tu vas rester. Alors l'époux revient, ayant un cri dans la nuit. Le Seigneur lui-même a un signal donné, etc. Un clac. Et puis après, il y a les noces de l'agneau. Et il nous est dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fal. Hein? Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et l'épouse qui monte, elle va d'abord passer 7 jours avec son mari. Tout seul à deux. Il consomme le mariage. Et l'épouse, elle était voilée. Parce que l'épouse, on ne la connaît pas. L'épouse, c'est pas l'église. Hein. L'épouse, elle est inconnue. Quels sont ceux qui aiment Jésus ? Vous pouvez très bien avoir des gens qui aiment Jésus et qui ne sont pas dans l'église. Hein. On en a rencontré tout plein. Hein. Vous pouvez avoir dans l'église plein de gens qui n'aiment pas Jésus, qui aiment autre chose, qui aiment eux-mêmes des gens. Vous savez, quelquefois on dit on est tous une partie du corps de Christ. Mais moi j'ai rencontré beaucoup de nombrils. C'est vrai, hein? Il y a plus de nombrils qu'autre chose. Et l'épouse, elle est voilée quand il l'emmène. Elle est inconnue. Il va y avoir des catholiques, des protestants, des tout ce que vous voulez, et des gens sans religion, mais qui aiment Christ, tout seuls dans leur coin. Moi, je connaissais quelqu'un, il allait pour l'église, mais il y avait une Bible toute crasseuse, tellement il l'avait lue, tellement... J'étais crasseux, il aimait son Seigneur. Et voilà. Il vendait des télévisions, ce monsieur. Hein? Voilà. Mais, voilà. Il aimait son Seigneur. Maintenant, il est mort. Voilà. Et c'est seulement après avoir consommé le mariage que l'époux présente son épouse dévoilée. Et là, on dit, oh, t'es là, toi? Ah ben ça, j'aurais jamais pensé. Ben, et machin, il est pas là? Ah oh, mince alors. Eh oui, c'est comme ça. Et je termine avec un verset de l'Apocalypse. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vins et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte. Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. En fait, Jésus est parti là-haut pour préparer une demeure qu'on appelle la Jérusalem céleste. Et il va nous y conduire. Et puis ensuite, elle descendra. C'est ça, l'épouse. Le Seigneur vous bénisse.